Bonjour Stibel L'Espérance, merci d'avoir accepté cette deuxième invitation. Lors de la première interview, vous nous avez parlé de votre activité d'assistante sexuelle dans le cadre de l'épisode consacré au thème handicap et sexualité. Aujourd'hui, vous allez nous parler de votre parcours d'escorte dans le cadre de ce podcast intitulé Les travailleurs du sexe. Pour ceux qui n'auraient pas écouté la première interview, pouvez-vous vous présenter de nouveau?
Oui, donc Cybèle L'Espérance, je suis escorte depuis une dizaine d'années. J'ai 42 ans, je suis mariée, je suis d'origine canadienne et je vis en France et j'exerce en France depuis 2018.
Pour rappel, quelles sont vos ou quelles ont été vos activités liées au travail du sexe?
Alors j'ai commencé comme sugar baby pour faire un petit peu mes premières expériences, mais mes sugar daddy étaient toutes plus jeunes que moi, donc le bébé était plus âgé que le papa. Ensuite, je me suis tournée vers l'escorting en tant qu'escorte indépendante. Je n'ai jamais travaillé pour une agence, comme c'est souvent le cas au Canada, et j'ai intégré un collectif d'indépendantes. Et ensuite, j'ai émigré. Ici, je suis escorte indépendante et accompagnante sexuelle depuis 2018.
Exercez-vous d'autres activités en parallèle?
Alors, ça m'arrive de gagner de l'argent comme formatrice ou pour de l'écriture, notamment sur les sujets du travail sexuel, mais c'est une fraction vraiment infime de mes revenus.
D'accord. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours et en particulier de ce qui vous a amené à devenir travailleuse du sexe?
Alors, moi, je viens d'une famille de la classe plutôt populaire. J'ai fait des études en santé sécurité du travail. J'ai fait un BTS pour être rapidement sur le marché du travail et gagner ma vie correctement. Mais je n'ai pas beaucoup œuvré dans ce milieu. J'ai fait plusieurs stages. Ensuite, je suis allée à l'université à partir d'argent économisé. Je me suis endettée, hein, comme on fait beaucoup au Canada. Et en fait, j'ai eu l'impression, quand j'ai enfin eu mes diplômes, d'avoir un peu raté toute la vie de jeune adulte. Il faut savoir que j'ai commencé à bosser, j'avais 14 ans, je suis partie en appartement, j'avais 16 ans. Et donc, à un moment, je suis devenue de plus en plus nomade. Je me suis beaucoup émancipée des obligations générales et j'ai été nomade pendant 12-14 ans, un peu par accident, hein, au fil des rencontres, au gré des visas, court séjour, long séjour, principalement en Europe, mais aussi au sein même du Canada, en Amérique du Sud. Et donc j'ai vécu ce genre de vie, j'ai travaillé pour Lonely Planet, j'ai rédigé des guides de voyage, j'ai été un peu sur les métiers de l'écriture ou encore voilà, j'ai travaillé pour la Poste Royale au Royaume-Uni où j'ai épluché des pommes de terre dans un centre de recherche. Voilà, ça donne un peu une idée, j'ai fait un petit peu de tout, j'étais fille au pair, j'ai fait pas mal d'universités mais très peu de diplômes. Voilà, donc qu'est-ce qui m'a amenée à exercer le travail sexuel? Comme beaucoup, c'est des nécessités financières, mais il y a aussi une dimension de vouloir me réapproprier une sexualité qui, dans mon point de vue, mon milieu social, était vue comme plus tu as des expériences sexuelles et moins tu as de valeur d'un point de vue sexuel. Voilà ce qu'on appelle le slut-shaming et donc la stigmatisation des salopes. Et donc, on est censé avoir moins de partenaires, on les compte, on demande à l'autre combien il en a eu, etc. Moi, j'étais dans ce genre de milieu et d'état d'esprit. Et ça fait partie de mon processus que de vouloir me dire, OK, bon, ça a de la valeur, on est prêt à payer pour ce corps, cette expérience, cette valeur ajoutée que je peux apporter dans la sexualité d'autrui. Et donc, ça a eu une influence. Bon, comme je dis, le fait d'être au chômage m'a donné quand même un petit peu de motivation. Mais mes premiers essais, je les ai faits alors que je n'étais pas dans la grosse mouise financière, avec cette idée de ne pas être sous la contrainte vraiment au moment d'expérimenter.
Est-ce que vous voulez nous parler de vos premières fois? Je pose cette question-là parce que on imagine que passer le pas fait qu'il y a un avant et un après quelque part dans ce métier-là.
C'est pas le cas pour tout le monde, hein. Il y a des personnes pour qui c'est le cas. Moi, ça a été quelque chose de très important parce que j'avais l'impression que ça allait me marquer au fer rouge, qu'à partir du moment, les gens, quand ils diraient le mot pute, par exemple, ça voudrait dire moi, en fait, que c'était un point de vraiment de non-retour. Du coup, pour moi, ça a été plutôt L'expérimentation, comme sur le bord de la piscine, mettre le gros orteil dans l'eau froide, ensuite les mollets. Moi, je suis pas du genre à sauter à pieds joints ou tête première. Donc, j'ai commencé par les sites d'annonces classés, à expliquer un peu mon processus de vouloir être payé pour du sexe, de se demander ce que ça fait, etc. Sur Craigslist au Canada, qui est voilà un site très généraliste d'annonces classées, un peu comme WAnnonce, comme Le Bon Coin. Et quand je me suis expliquée comme ça, j'ai eu des centaines de mails en quelques heures, ce qui m'a fait complètement paniquer, donc j'ai tout fermé. Et à la place, en fait, j'ai commencé à chercher dans les annonces classées des personnes qui disaient « j'ai jamais eu d'expérience sexuelle, je suis puceau », etc. Et qui racontaient leur point de vue en disant « est-ce qu'il n'y a pas une fille qui veut m'aider ?» Et là, à ce moment-là, je les contactais individuellement pour leur dire « ben voilà, voici mon processus à moi, et est-ce que tu crois qu'on peut se rejoindre quelque part là-dedans ?» Et il y a une personne qui a répondu, il n'avait même jamais embrassé une fille, et donc voilà, on a un peu parlé de tout ça, on a fait un peu un genre de rencart qui a duré 5 heures en tout, et à la fin, j'ai été payée une centaine de dollars, donc c'est vraiment très très peu, mais voilà, on est allé jusqu'au sexe oral, et c'est devenu un client régulier par la suite. Même dans ma carrière plutôt d'escorte, même s'il avait une place particulière. Donc ça a été un peu comme ça, et c'est pour ça que je me suis orientée vers le sugar dating, qui est plus une idée d'avoir des rendez-vous réguliers avec une même personne et d'avoir quelque chose qui ressemble plus à un rencard plutôt qu'à un tarif pour 1 heure, pour 2 heures, pour 3 heures, etc. Je sais pas si j'ai besoin de parler plus des clients, je trouve que ça
On va
pose
en
bien
parler
après, ouais, à
après.
la fin.
Je veux pas donner à la. En fait, je veux pas donner
Ouais,
à
tout le contenu.
l'interview un côté voyeuriste. C'est pas le but. Mais
Ok.
en même temps, je trouve que des exemples, c'est important. Enfin, ce que vous venez d'expliquer là, je pense que c'est très éclairant pour les gens. Donc, je trouve ça intéressant moi, à titre personnel. En fait, j'ai l'impression que les gens c'est l'impression que j'ai, mais c'est aussi le point de vue que j'avais avant de commencer à m'intéresser à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que il y a les femmes. Et puis il y a les putes, on va utiliser le mot courant, j'ai envie de dire, et que quelque part le glissement entre je le suis pas et je le deviens, bah les gens ils le maîtrisent pas du tout, ils voient pas du tout comment on peut passer de l'un à l'autre en fait finalement. Et je pense que ça contribue beaucoup à ce que les prostituées soient très mal vues parce qu'on se dit c'était forcément des mauvaises personnes à la base quoi, grosso modo. Je pense que c'est un peu. Enfin, je sais pas si vous
Bah, il y a
l'avez
un
plus.
ouvrage en entier là-dessus, hein, de Gail Fetterson, le stigmate de la putain, c'est un concept qu'elle déploie dans le prisme de la prostitution, qui dit en gros, voilà, le stigmate de la putain, c'est cette espèce de fouet qui vous remet à votre place en tant que femme et qui vous empêche d'aller chercher de l'autonomie, qu'elle soit sexuelle ou financière. Et donc,
D'accord.
le stigmate de la putain, c'est les deux à la fois, hein. Donc forcément, oui, moi je n'avais pas conscientisé toutes ces choses-là, mais moi j'ai vraiment vu un avant et un après. Ce qui était assez rigolo, parce que j'ai un tatouage d'une fleur de lys, un symbole québécois dans ce cas-ci, sur une omoplate, et on m'avait déjà dit, tu sais, c'est comme comment ils marquaient les criminels au fer rouge en France. Et du coup, je trouvais ça drôle parce que criminels, ça pouvait très bien être les prostituées. Les femmes, on leur rase la tête et on leur imprime une fleur de lys au fer rouge sur l'omoplate. Donc je me disais, j'avais déjà la marque, donc j'ai pu assumer facilement.
Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur votre métier en termes d'avantages, d'inconvénients, si on peut appeler ça comme ça? Est-ce que c'est précaire? Est-ce que vous estimez que c'est précaire? Est-ce que ça vous va, en fait, quelque part, par rapport à votre propre façon d'envisager votre vie?
Moi, ça me convient. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Hein. C'est pas toujours rose. Il y a des situations plus difficiles que d'autres. Mais j'ai assez de marge de manœuvre dans mon métier pour favoriser des bonnes conditions d'exercice. Et par exemple, je maintiens maintenant un genre de carnet de bal, pour reprendre l'expression de Grisi-Lydie Réal, qui était une célèbre prostituée suisse des années 60-70 qui a écrit des bouquins. Donc son carnet de bal. Moi, j'écris notamment une petite note sur le taux d'énergie que j'ai à la fin d'un rendez-vous. Donc je peux dire, voilà, c'était un excellent rendez-vous. Non pas la personne, hein, bien le rendez-vous. Je me sens énergisée. contraire, je peux être complètement vidée, ou ça peut être un peu quelque part entre les deux, ben voilà, c'est le taf, hein, et ouf, ça a été quand même un peu dur. Et ça me permet de visualiser beaucoup mieux quand le métier va moins bien dans ma vie, et si ça peut commencer à être trop dur pour moi. Et donc ça me permet de rectifier parfois le tir, de me séparer de certains clients qui me tirent du jus, de changer mes conditions d'exercice. Je gagne assez bien ma vie financièrement pour avoir cette marge de manœuvre, et maintenant, j'exerce dans un milieu que je possède, un appartement dédié à cet exercice. Et donc, ça me permet d'avoir plus de clients qu'avant lorsque j'étais en déplacement sans voiture, que j'étais extrêmement militante aussi. Et enfin, voilà, je peux dire que je gagne bien ma vie alors que j'étais plus près du SMIC pendant les 7-8 premières années de mon exercice. J'aime mon travail. J'aime les conditions qu'il m'apporte, et il est très probable que si je ne l'exerçais pas, je serais précaire, notamment bah, parce que j'ai un handicap invisible, j'ai des douleurs chroniques qui me fatiguent énormément. Et c'est pour ça que j'ai quitté partiellement l'écriture qui me demandait d'être immobile longtemps. Maintenant, dans le métier, voilà, si physiquement j'ai mal, bah, je prends un ou deux cachetons avant une prestation et j'ai que 1 heure, 2 heures à tenir. Et une fois que je suis dans mon milieu, dans mon élément, je suis un peu comme l'actrice sur scène, je rentre dans ma zone, je suis là entièrement pour l'autre personne, et la douleur, elle n'est plus consciente. Donc, à la fin de la journée, je ne suis pas complètement épuisée, ou je le serai de toute façon, mais d'avoir travaillé 1 heure, 2 heures me permet de gagner confortablement ma vie sur une journée. Et ça, je ne pourrais pas avoir un travail qui me permet de faire ça avec les douleurs chroniques que j'ai, qui sont reconnues hein, comme handicap en France.
Toujours pour rester dans l'idée d'apporter un témoignage le plus éclairant possible, pour vous un rendez-vous qui s'est bien passé et pour vous un rendez-vous qui s'est mal passé, c'est quoi?
Un rendez-vous qui s'est bien passé. C'est un rendez-vous où je sens que j'ai été utile, que j'étais à ma place, avec une personne respectueuse de ma démarche, de ma façon de travailler, de mes conditions, qui n'a pas cherché à négocier, qui m'a demandé mon consentement lorsque ça semblait nécessaire, lorsqu'il n'y avait pas un consentement implicite clair. C'est une personne qui semble satisfaite en partant. Et qui ne m'a pas voilà, physiquement éprouvée non plus, parce qu'il y a certains rendez-vous qui sont physiquement éprouvants, et ce n'est pas la faute de la personne. C'est plus voilà, la physiologie, les angles, l'obésité parfois qui fait que les positions sont restreintes et plus acrobatiques. Et voilà, ça c'est un rendez-vous qui va être plus difficile physiquement, mais après émotionnellement, bah, il y en a parce que les personnes. J'ai l'impression que je suis là pour rien, que je leur apporte pas quelque chose à la hauteur de la qualité que je voudrais, ou encore elles sont brusques, elles sont pas à l'écoute, elles attendent finalement que je pose des noms fermes, je suis obligée d'être alerte pour pas qu'il y ait des dépassements de mon consentement sur mes pratiques. Ou encore, voilà, à la fin, gratte du temps, essaie de ne pas partir, essaie de manipuler. Ça, ce sont des rendez-vous extrêmement vidants.
J'avais une question à vous poser qui était de savoir si votre métier est un choix ou même éventuellement une passion. Je pense que vous avez répondu en partie, mais peut-être que vous voulez rajouter autre chose.
Non, j'ai pas une passion particulière pour la bite de Jean-Michel, hein.
C'est une façon assez claire de le dire.
C'est une boutade assez courante dans notre métier.
D'accord. Donc maintenant, une série de questions dont je vous ai parlé tout à l'heure qui me paraît importante, c'est quelle vision avez-vous de vos clients ou de certains de vos clients, peut-être que vous les classifiez, comme on vient de le dire, sur ceux qui vous paraissent plus agréables, on va dire, à gérer que d'autres. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Et puis dans un second temps, pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils viennent vous voir? Qu'est-ce qui les amène à payer pour du sexe en particulier?
Je pense que les deux questions se retrouvent de toute façon. Moi, j'ai toujours été dans une forme d'accompagnement Je sais qu'en France, on utilise beaucoup le terme accompagnement sexuel pour parler finalement de travail sexuel avec des personnes handicapées au sens assez large. Moi, je considère que je fais de l'accompagnement de toutes sortes de personnes, qu'elles aient des handicaps ou non. Il y a des personnes qui ont des handicaps qui viennent parce qu'ils veulent baiser, qui veulent se faire démonter sur leur fauteuil électrique. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'être dans un processus de mise en capacité, d'apprentissage, d'éducation sexuelle, de prendre confiance en soi. Mais il y a des personnes aussi valides qui ont eu des vies émotionnelles compliquées, affectives, ou des mauvaises expériences sexuelles par le passé, hein. J'ai quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai déjà accouché, donc c'était pas la première. Et là, je suis arrivée pour l'embrasser, pour le détendre. Et là, il m'a dit ça, par contre, j'avais jamais fait. Donc voilà, il y a des expériences qui peuvent être assez chaotiques et on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Mais les personnes qui viennent à moi dans cette démarche sont les personnes que je préfère. J'ai l'impression d'être à ma place. Je les rassure, je les informe, je leur pose des questions souvent pour savoir où ils en sont. Est-ce que ça va? Est-ce que je continue? Est-ce que tu as envie de faire ceci? Donc, je suis force de proposition et j'ai l'impression que c'est là où tous mes talents sociaux sont valorisés, relationnels, toutes les connaissances que je peux avoir en psychologie appliquée. Donc là, je me sens vraiment utile et je sens que je me distingue peut-être de s'ils avaient été voir n'importe quel autre de mes collègues, un peu au hasard. Hein, chacune apporte quelque chose. On dit souvent, il y a un client pour chaque travailleuse du sexe et il y a une travailleuse du sexe pour chaque client. Mais moi, je me sens à ma place dans ce genre de situation. Après, depuis que je reçois dans cet appartement, j'ai beaucoup plus d'hommes mariés. Donc, un client qui, une cinquantaine d'années, se retrouve dans un mariage avec des enfants, aime sa femme, aime sa vie de famille en tout cas, mais le feu n'y est plus, le désir n'y est plus, ne cherche pas à bouleverser son couple, ne cherche pas à divorcer, à se séparer. Mais cherche à vivre d'autres expériences, soit parce qu'il en avait l'habitude avant de se mettre en couple et voilà, ça lui manque et il cherche une solution, soit parce que bah, c'est des personnes qui ont été mises en couple jeunes et n'ont pas eu d'autres expériences et ont un peu l'impression de passer à côté de quelque chose et donc sont dans une démarche d'auto-exploration. Encore une fois, moi, ce genre de personnes-là, ça me donne énormément de sentiments d'accomplissement dans mon travail. Mais bah voilà, une personne mariée ou récemment divorcée ou veuve qui vient pour consommer du sexe et de la relation affective d'amante temporaire, amante de passage, bah, ça me convient aussi. Ça ne me donne pas le même sentiment d'accomplissement. C'est quelque chose qui me va et je comprends la démarche.
J'avais deux questions du coup par rapport à tout ce que vous venez de me dire, c'est que notamment vous envisagiez, enfin vous disiez tout à l'heure que certains, que vous embrassiez, enfin que vous êtes arrivé d'embrasser un client qui disait qu'il, ça et par contre il n'avait jamais fait. Et il y a une légende urbaine qui veut que les prostituées n'embrassent pas.
Oui, bah, y a un titre d'un livre hein, qui est Moi, je n'embrasse pas, qui était un livre sur un homme travailleur du sexe dans la rue et jusque dans les années 2000, c'était plutôt la norme de ne pas embrasser. Et ça l'est encore dans la rue hein, de ne pas embrasser. Par contre, on a vu la montée d'un type d'exercice, bon, avec l'escorting, qu'on appelle le GFE, le Girlfriend Experience, l'expérience de la petite amie. Alors, ça vient des États-Unis hein, comme dénomination, mais en gros, bah, ce sont les personnes qui embrassent. L'escorte, elle est proche du client, elle est comme une amante temporaire. Moi, l'homme qui vient me voir, je dois lui faire sentir qu'on se connaît depuis toujours et qu'on a eu l'habitude de se voir et que ça marche comme sur des roulettes parce qu'on est ce bon plan cul, cette bonne vieille amie qui vous écoute ou avec qui vous avez un bon délire sexuel. Et donc on embrasse si c'est ce que la personne souhaite. Parfois il y a des gens qui le font avec un supplément, mais voilà, c'est le type de proposition. Il y a un autre nom qui est moins courant en France mais qu'on entend beaucoup en Amérique du Nord, c'est le PSE. Donc le GFE existe à côté du PSE, c'est le Porn Star Experience. Et là, on parle de personnes qui jouent la porn star un peu au lit avec vous, donc pratiquent la sodomie, n'embrassent pas, alors que la GFE vont être plus ouais, sur ce côté très câlin, très proche de la petite amie, quoi.
Alors je vais revenir sur une des questions que je vous ai posées tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui les amène à payer pour du sexe? Alors je précise ma question. À l'heure, on est en 2023, à l'heure où les applications de rencontre, on pourrait penser qu'elles ont favorisé ou qu'elles favorisent largement, par rapport à l'ère avant Internet, les plans cul. Qu'est-ce qu'un homme marié qui ne trouve plus ce qu'il lui faut en termes de sexualité dans son couple, qu'est-ce qui peut l'amener à préférer payer pour du sexe qu'à aller chercher, l'adultère tout bonnement?
Bah déjà, il y a un côté très sûr, c'est-à-dire que nous, travailleuses du sexe, on ne resollicite pas les personnes, on n'entre pas dans leur vie, on est là pour la parenthèse. Par contre, on ne va pas demander au mec qui quitte sa femme, on ne va pas interférer avec sa vie de famille, on n'est pas dans des notions d'attachement traditionnelles, hein. On peut vivre de l'attachement, mais il est autour d'une relation tarifée, ce qui donne un cadre qui est très rassurant. Il y a aussi le fait que, bah voilà, pour choper sur les applis de rencontre, il y a quand même tout un décorum, toute une procédure de séduction qui peut être assez fastidieuse, qui peut être aussi coûteuse et qui, au final, n'assure pas de pouvoir trouver chaussure à son pied. Dans le travail sexuel, on a un peu le catalogue et on peut regarder si quelqu'un colle avec ce qu'on cherche. Moi, il y a un catalogue de pratiques sur mon site. Les gens peuvent voir si déjà, au niveau des pratiques, de ce que j'aime faire ou que j'accepte de faire, ça colle. Il y a les photos. Et moi, j'ai aucune raison de refuser une personne qui soit respectueuse, qui respecte ma démarche, mes conditions, à condition qu'elle paye. Donc, c'est une facilité énorme. Je dirais même que pour certaines personnes, c'est une béquille. C'est-à-dire des personnes beaucoup plus jeunes qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience et qui, des fois, viennent, bon, pour prendre de l'expérience, quelques rencontres, je trouve ça correct comme démarche, mais parfois ça m'inquiète de voir des personnes début vingtaine dépenser des sommes assez considérables alors qu'ils ne sont pas très avancés dans leur carrière pour venir avoir une relation avec moi parce que au final j'ai l'impression que ça devient une béquille qui les empêche de prendre un peu leur envol. Moi, à titre personnel, comme j'aime bien voir des gens prendre leur envol, je trouve ça un petit peu dommage. Ça m'inquiète. Dans certains cas, je leur en parle d'ailleurs. Mais voilà, c'est un peu la facilité, hein, je dirais. Et parfois, tu as même des personnes qui considèrent qu'elles font une bonne action. Voilà, surtout avec le profil de personnes que je présente. Voilà, je fais de l'accompagnement sexuel, je suis tellement humaniste, je suis tellement une bonne personne. Bah, forcément, ils se disent, bon, bah voilà, elle, je veux la soutenir, elle fait que du bien dans sa vie. C'est une sainte, c'est une mère Teresa. Bon, voilà. Il y a des exagérations là-dedans, mais en tout cas, je pense qu'il y a des gens qui sont contents de soutenir financièrement quelqu'un qui a une démarche comme la mienne, par exemple. Et c'est pas si rare que ça.
Bon, je souriais en sourdine, hein. J'essayais de ne pas perturber le cours de l'interview, mais c'est intéressant tout ce que vous nous dites. Alors,
Bah, on a, juste peut-être pour compléter, il y a aussi les étudiantes qui vivent ce genre de circonstances, hein. La personne qui va payer pour des services sexuels avec une étudiante va se dire, bah, je l'aide dans ses études. Et du coup, il y a des gens parmi nous qui sont étudiants très très longtemps, bizarrement.
c'est le pitch de la Sugar Baby, là, pour le coup.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, voilà, moi j'ai été étudiante jusqu'à 32 ans. Après, c'était pas tout à fait faux. Mais il y a un moment où on peut plus le jouer.
Alors, une question, surtout la dernière grande, le dernier grand type de question que j'avais envie de vous poser, c'est quelles répercussions votre métier, donc d'escorte, a-t-il sur votre vie sociale, sur votre famille, par rapport à votre mari, puisque vous êtes marié, vos enfants éventuels, je ne sais plus si vous avez des enfants.
Alors moi, je n'ai pas d'enfant et je réfléchissais récemment au fait que si j'en avais, je n'en parlerais pas parce que ça les expose énormément, ça expose nos proches hein, lorsqu'on est travailleuse du sexe et qu'on est public. C'est-à-dire que voilà, moi, j'ai pris la parole publiquement, j'ai été militante, j'ai été très visible dans les médias et il y a eu… Voilà, c'est un peu comme le coming out LGBT, hein. Il y a des phases et on n'a jamais fini de faire un coming out parce qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on lui dit, voilà, je suis travailleuse du sexe et puis il faut s'expliquer, se justifier. Ou encore, il y a des questions voyeuses. Donc, on vit tout le temps des conséquences de ça. Et c'est vrai que dans mon voisinage, par exemple, c'est pas un sujet. On va pas me connaître sous Cybèle l'Espérance, mais par contre, dans tous les milieux militants dans lesquels j'évolue, je me présente maintenant comme Cybèle, parce que je trouvais ça beaucoup plus simple que tout le monde sache que j'étais travailleuse du sexe. Et Cybèle, ça venait avec cette identité-là. Donc, quand on connaît ce nom-là, c'est qu'on sait que je suis travailleuse du sexe. Pour ce qui est de mon mari, moi, je l'ai rencontré après avoir commencé. J'exerçais déjà depuis quelques années. Et en fait, il m'a connue comme ça. Donc, notre relation s'est construite autour de ça. Ce qui peut être un peu compliqué, c'est l'impact que mon travail peut avoir sur notre vie sexuelle. Mais notre vie sexuelle a aussi ses propres dynamiques qui sont à l'extérieur de mon travail. C'est
Quand
vrai
vous dites
que oui.
que vous l'avez rencontré comme ça, c'était un client à la base.
Non, du tout. J'étais juste travailleuse du sexe déjà à ce moment-là. C'est ce que je veux dire par comme
D'accord,
ça.
ok.
Ça n'a jamais été un client. Bon, j'ai déjà dit à la blague que c'était mon client à 100% de rabais, hein, mais bon. Lui, il a toujours eu une promo. Bon.
Voulez dire qu'il l'a toujours su, en fait, dès le début.
Oui, c'est ça. Il était au courant. Donc, en fait, il n'y a pas eu la question de comment je lui annonce. Voilà, on s'est rencontrés dans un contexte qui n'était pas un site de rencontre ou autre. Et donc, ça s'est fait un peu naturellement. Bon, naturellement, dans le sens assez large, hein, parce que j'ai émigré dans le cadre de notre relation, mais je cherchais aussi à émigrer. Donc, ça a eu un impact un peu sur comment notre relation s'est formée. Mais au final, ce n'est pas le travail du sexe qui a le plus structuré notre relation. La réalité, c'est que quand j'ai immigré, j'ai pris une pause quand même, un peu en me disant, bah voilà, tu vas pas faire ça toute ta vie, ce que se disent pas mal de gens au début. Et c'est vrai que dans notre métier, on a un turnover important. C'est quelqu'un qui pratique depuis 2 ans, c'est une ancienne déjà, c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Il y a beaucoup de gens qui l'exercent quelques années, puis ensuite font faire autre chose, et puis hop, il y a un coup dur de la vie, et reviennent quelques mois, et voient un client par mois, et gardent un régulier pendant plusieurs années, mais ne font plus le travail autrement. Bah, c'est vrai qu'on a, voilà, c'est un métier extrêmement fluide là-dessus et de dire bon bah voilà, en fait là je vais faire ce métier pour un grand pan de ma vie. C'est quand même une grosse décision et moi je l'ai prise bah, avec la douleur qui est revenue et qui a pris vraiment plus de place.
C'est
Et voilà.
votre santé qui a beaucoup impacté cette décision finalement.
Oui, c'était un mix de la santé, de là où j'en étais avec mon mari et notre vie commune, ce qui est aussi ça. Moi, je vivais pas avec lui avant le mariage, parce que j'étais à l'étranger, j'étais au Canada, et forcément, lui ne voyait pas le quotidien qui vient avec le travail sexuel, de me voir partir au travail. Donc ça aussi, ça a été des questionnements, et c'est ce qui m'a dirigée aussi vers l'accompagnement sexuel en arrivant en France. C'est que là, il y avait tout un cadre qui pouvait être rassurant, il y avait un peu une formation qui parle de la loi en France. J'ai pu en apprendre plus long vraiment sur la façon dont les gens exerçaient. J'avais une communauté, et tout ça, ça a permis un peu de rassurer, de poser le cadre. Et après, c'est vrai que le fait d'être une personne publique, ça veut dire que toute personne qui sait qu'on est ensemble sait que mon mari, elle, a une vie non conventionnelle de mari, de travailleuse du sexe. Donc, c'est un coming out qui vient. Lui, il n'a rien demandé, en fait. Mais il est forcément impliqué dans toute prise de parole publique, à toute personne à qui je parle de mon métier. Ça l'implique forcément, en tant que proche.
Vous disiez que votre voisinage, si j'ai bien compris, ne sait pas quelle est votre activité.
Ouais, la grande majorité de mon voisinage ne m'a jamais demandé ce que je faisais comme travail. Et c'est vrai que je suis assez discrète. Bon, il y a des personnes avec qui j'ai déjà eu ce genre de discussion. Mais c'est vraiment très très peu parce que j'ai pas envie que les clichés viennent s'ajouter, teinter notre relation, qu'on commence à surveiller mes allées et venues ou celles d'amis, de personnes qui me rendraient visite, et même chose au local où j'exerce, qu'on commence à surveiller les clients. J'ai très peur notamment que les clients soient perçus comme de potentiels agresseurs, parce qu'il y a des gens qui les voient comme des délinquants sexuels. Et donc, voilà, un client qui arriverait, oh mon Dieu, il va croiser nos enfants, mais comme si ce n'était pas vos pères, vos frères, vos fils, vos amis, qui sont aussi des clients, hein. C'est vraiment des hommes lambda qui viennent nous voir. Et je pense que ouais, la stigmatisation, dans les questions de voisinage, pourrait commencer à m'attribuer des nuisances. Voilà, comme beaucoup d'escortes, moi je veux faire profil bas et pas déranger, et pas susciter une suspicion. Et je pense que c'est mieux pour le bon voisinage de façon générale.
Je rebondis quand même sur ce que vous dites parce que moi ça m'étonne beaucoup. Alors, je vous donne un exemple. Moi j'ai une voisine qui a un certain âge que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais si demain je lui dis que j'écris des romans BDSM, après-demain tout le village le sait quoi. Hein. Donc je me pose la question quand vous me dites que certaines, vous en avez parlé avec certaines personnes de voisinage, je me demande si les gens vous en parlent pas parce qu'ils le savent tous et qu'ils verraient même pas comment aborder le sujet ou que pour eux peut-être parfois c'est même pas un sujet. Enfin.
Ah ben ça c'est possible, hein. Moi ça a été de toute façon une stratégie de coming out générale au fil des années de dire à un cercle de plus en plus grand que je suis travailleuse du sexe. Et un peu pour faire que comme quand il y a une personne nouvelle qui arrive dans le cercle, bon, je vais donner l'exemple, je vais m'impliquer au planning familial de ma région. Là, je me suis présentée comme Cybèle d'Espérance. Les trois quarts des gens savent que je suis travailleuse du sexe. Et du coup, quand je prends la parole et que j'ai besoin de dire un truc sur le travail du sexe, des personnes qui ne me connaissent pas vont l'apprendre. Et ils vont l'apprendre tout en voyant 15 autres personnes ne pas sourciller du tout. En fait, je cherche à rendre le truc normal. Et d'une certaine façon, si un jour les personnes l'apprennent et sont choquées, j'aurais envie de leur dire, mais quoi, tu ne savais pas? Tu sais que la vidéo que j'ai faite, elle a été vue par 40 millions de personnes. Je pensais que la France entière le savait. Je pensais que tu savais. Voilà. Vous n'avez pas remarqué alors que ça fait 3 ans, que j'exerce ici. C'est un peu mon point de vue. Après, j'avoue que le fait d'être mariée fait que les personnes ont très, très peu de suspicion. Voilà, une femme mariée respectable comme moi. Et si ça se trouve, eux-mêmes sont dans des soirées BDSM, quand sait-on, hein?
Oui, bah clairement, il paraît que dans le BDSM, il y a entre 20 et 50% de pratiquants. C'est-à-dire qu'on
Ouais.
en croise tous les jours sans le savoir, hein, soyons clairs. Mais bon, je note, excellente stratégie de communication, pas mal du tout.
J'essaie de me préserver. C'est vrai que le fait de ne pas avoir d'enfant fait en sorte que j'ai un peu plus de marge de manœuvre. Après, c'est vrai que voilà, là, je me suis installée dans un quartier où je connaissais déjà des gens. Donc, je ne vais pas faire comme si ça n'existait pas. Je suis juste assez prudente dès lors qu'il y a des enfants dans les parages. Voilà, je vais parler de façon beaucoup plus évasive de mon métier. Et c'est vrai que quand on me pose la question, bah, je réponds souvent que je travaille avec des handicapés, ce qui n'est pas faux non plus. J'accompagne des personnes handicapées. Donc, je ne fais pas que ça. J'accompagne des personnes pas handicapées du tout dans des lits, mais voilà, ça fait une partie des lits ou ailleurs, hein, on s'entend. Mais.
Une question que je vous avais déjà posée dans la première interview, c'est envisagez-vous d'exercer encore longtemps ce métier?
Bah, moi, ça dépend vraiment de l'âge de la retraite. Il faut manifester encore, là, voilà. Mais de toute
65
façon,
ans, il reste un peu de temps, oui.
oui, bah, il reste 20, 23 ans, donc un petit peu de botox, un petit peu d'entretien, pas mal de salles de sport, on mange bien. Voilà, et tant que mon corps me permet d'exercer, sans que je doive voilà, utiliser des allocations handicapées ou tenter d'avoir un autre boulot moins bien payé, je vais le faire, hein, et j'organise ma retraite en conséquence, c'est-à-dire que je suis étrangère, moi, je ne l'ai pas constituée, la retraite de toute façon, donc j'essaie de faire des placements, d'obtenir de l'immobilier, un peu voilà, mon assurance chômage ou retraite à moi-même. Donc je suis obligée de penser à ça et c'est pour ça sans doute aussi que je suis obligée de faire plus d'argent dans ces années-ci, qui sont, hein, la quarantaine, c'est de très bonnes années, hein, pour exercer. On a ce mythe comme quoi les personnes dans la vingtaine sont celles qui sont très en demande et tout, alors qu'en fait, elles sont en demande par un certain type de clients qui cherchent la jeunesse, etc. Mais il y a énormément de gens qui cherchent des femmes parfaitement normales, d'expérience, à l'aise avec leur corps, qui connaissent bien la sexualité, qui sont moins discriminantes, qui en ont vu d'autres, en fait. Et qui souhaitent des femmes de leur âge aussi. Donc, quand on a 40 ans, on a des plus jeunes de 30 ans, des plus vieux de 50 ans. Voilà, on a tout le panel qui peut venir à nous. Et ce sont en général aussi des clients de meilleure qualité parce qu'ils ne cherchent pas la jeunesse à tout prix. Ils sont moins dans une dimension de consumérisme qui mettent la pression. Donc, oui, moi, je vais continuer tant que c'est possible et je vais m'entretenir en conséquence. Je vais investir en conséquence. Et puis, le jour où ce sera plus possible, bah. Tout sera plus possible, j'arrêterai.
L'interview touche à sa fin. Avez-vous envie d'ajouter quelque chose à votre témoignage, quelque chose qui vous tient à cœur?
Oui, j'aimerais rappeler que l'immense majorité des travailleurs, travailleuses du sexe, des associations de travailleurs et travailleuses du sexe ne réclament pas la réouverture des maisons closes au sens large, au sens français du terme. On souhaite pouvoir exercer librement, comme le feraient des masseurs-masseuses bien-être, que ce soit de chez nous, ensemble, en collectif. On souhaite être sous le même régime de protection sociale que les autres travailleuses. On a envie de ne pas avoir la criminalisation de nos clients, d'avoir du pouvoir, de pouvoir négocier, de pouvoir prendre la carte bancaire. Donc l'immense majorité demande cette décriminalisation-là et non pas un régime qui serait très très contrôlant de nos vies. On est des personnes capables, on est capable de prendre le contrôle sur nos vies, on est capable d'aller chercher de l'aide, de s'entraider. Et les personnes qui souhaitent arrêter, bah, on les aidera à arrêter aussi. C'est nos collègues. On fait attention à eux.
Il y a une entraide entre les
Ah
travailleurs
bah,
du sexe.
c'est un milieu très hostile, mais c'est un milieu très solidaire. C'est un des grands paradoxes de tout ça. Mais c'est une galère et les galériens en général, ils se soutiennent.
D'accord. Donc voici qui clôt cette interview. Je vous remercie chaleureusement pour votre témoignage. Merci de contribuer à éclairer les auditeurs de mon podcast avec votre expérience. Et qui sait, peut-être nous reverrons-nous pour un prochain épisode.
Merci.